Bonjour, bienvenue sur Radio Tremblay. Je vais vous présenter le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons faire une émission spéciale sur les droits de l'enfant. Vous allez écouter un sondage de l'école, l'interview de Monsieur Geffrard, une chanson, un reportage. Nous terminerons avec un extrait du discours effectué lors de la plantation d'un arbre au parc Tremblay en commémoration des 30 ans des droits de l'enfant.
Nous commençons cette émission en abordant le droit au loisir. Nous allons écouter le sondage fait auprès des élèves de 1P de la classe de Nadia sur leur loisir préféré.
C'est quoi votre lieu préféré ?
La cuisinière. Moi, j'aime jouer au jeu de cerises. J'aime jouer à la cuisinière.
Quel est le jeu préféré?
Moi, mon jeu préféré, c'est la cuisinière.
Moi, mon jeu préféré, c'est le foot.
Quel est vos jeux préférés?
J'aime dessiner.
J'aime jouer au Lego.
J'aime jouer au toboggan.
À quoi vous aimez jouer?
J'aime beaucoup jouer à l'escargot.
J'aime beaucoup jouer au puzzle.
J'aime beaucoup faire des dessins.
Quel jeu vous aimez et quel loisir?
J'aime bien faire du puzzle.
J'aime bien jouer aux cartes.
J'aime bien aller à la piscine.
À quoi tu joues?
Je joue avec mon doudou.
Je joue avec mes Lego.
Je joue avec mes voitures.
Qu'est-ce que vous aimez jouer?
Au tableau. J'aime jouer au toit, au tableau.
Moi, j'aime jouer au foot.
Moi, j'aime jouer au basket.
Dans le cadre du droit à l'éducation, les élèves de la classe de Dominique nous décrivent leur classe en allemand afin de nous montrer la chance que nous avons d'être aussi bien équipés dans nos écoles genevoises.
Hallo!
Wir sind die Klasse von Frau Dominique Ducré.
Wir sind in 8P.
Wir beschreiben unser Klassenzimmer.
Wir sind 17 Schüler und eine Lehrerin.
Dann gibt es 18 Büros.
Aber gibt es 29 Stühle, 4 Ball.
5 Sofas und eine Bank zu setzen.
Es gibt 3 große Tische und einen kleinen Tisch.
Es gibt auch eine Uhr, 2 Landkarten, einen Computer.
24 Plakat, 5 Fenster, 9 Lampen.
Vorne sind eine schwarze Tafel.
2 Landkarten und ein Uhr.
Hinten sind 3 Regale, ein Computer.
Ein Beamer mit seinem Bildschirm und viele Plakate.
Rechts sind 5 Fenster.
Und links sind die Tür, 5 Schranken,
die Waschbecken und viele Plakate auch.
In der Mitte sind
wir! Das ist unser Superklassenzimmer!
Un grand bravo aux élèves de la classe de Dominique. Pour s'être exprimé en allemand, nous vous proposons de passer à quelques constats faits par l'UNICEF en 2009 sur le respect des droits de l'enfant en France, notamment sur la question de la maltraitance.
Bilan de l'UNICEF France 2009. La situation des enfants en France est bien différente, mais certains chiffres restent très préoccupants. En 2006, 98 000 enfants étaient signalés en danger, dont 19 000 enfants maltraités et 79 000 à risque. Les adolescents en perdition se retrouvent en danger, car leurs parents démunis ne savent pas comment agir. Chaque collectivité importante devrait se doter d'une maison des adolescents. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 15 à 24 ans en France.
Les conditions de visite des familles en prison sont désastreuses. Il y a dans notre pays 140 000 enfants, dont un parent incarcéré. L'UNICEF intervient pour que ces enfants puissent voir leurs parents dans de meilleures conditions. Les châtiments corporels sont très ancrés dans les coutumes. La violence morale et psychologique est également très présente. L'UNICEF agit pour sensibiliser, expliquer, convaincre, agir sur la culture et mentalité et préconiser des formes de discipline non violente.
Les 4 000 à 6 000 mineurs isolés et étrangers sont exposés aux abus et aux violences et n'ont aucune protection. 5 000 à 7 000 enfants roms n'ont accès ni au logement ni à l'école. Beaucoup se cachent pour ne pas être renvoyés dans leur pays. Vivre dans la rue. Les enfants orphelins abandonnés par leurs parents ou séparés d'eux par les conflits armés sont parfois obligés de vivre dans la rue, livrés à eux-mêmes, contraints de travailler, mendier, voler ou se prostituer. Ils sont exposés à toutes sortes de dangers comme la drogue, les agressions, les abus et les trafics. L'UNICEF pense qu'il faut un véritable engagement des pouvoirs publics, l'établissement de législation et des moyens de les faire appliquer. Il faut œuvrer pour une évolution des mentalités, des coutumes et des comportements. Il faut assurer la prestation des services essentiels. Exploitation et traite. 1,2 million d'enfants sont victimes de la traite chaque année. En majorité, les filles, 5,7 millions d'enfants sont réduits à la servitude pour dette ou d'autres formes d'esclavage. 1,8 million d'enfants sont contraints à se prostituer. De nombreux pays, conscients du problème, ont commencé une action pour lutter contre l'exploitation et la traite. L'éducation est un outil essentiel. Les parents et les enfants instruits courent moins de risques. C'est pour cela que l'UNICEF s'investit si fortement dans l'éducation. Il faut aussi renforcer la législation pour que les criminels soient poursuivis et améliorer les procédures juridiques à l'intention des enfants victimes.
Mariage forcé. Ils sont imposés aux enfants des deux sexes, mais ils affectent davantage les filles car ils engendrent de grossesses et des accouchements prématurés. Plus de filles sont jeunes, plus le risque de mortalité maternelle et néonatale est élevé. C'est dans le monde la principale cause de décès pour les filles de 15 à 19 ans. Leurs enfants ont aussi moins de chances de survivre. C'est par l'éducation que l'UNICEF combat ce phénomène. Les mentalités et les coutumes doivent changer.
Radio Tremblay, c'est pas mauvais.
Bonjour, ici Radio Tremblay. Nous sommes les élèves de la classe de 6P de Karine Robert et Séverine Mouteur. Le 20 novembre 2019, nous avons fêté les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant, adoptée à Genève par tous les pays, sauf les États-Unis.
Nous recensons depuis plusieurs années les petites pièces jaunes pour aider l'association Petit Goutte d'eau, en Haïti, qui signifie Petite Goutte d'eau.
Pour mieux connaître ce pays et la vie de petits Haïtiens, M. Geffrard, président de Petite Goutte d'eau, a accepté de répondre à nos questions.
Alors, pour commencer, est-ce que tous les enfants d'Haïti ont un toit ?
La réponse est oui et en même temps non. Oui, parce que quand on est petit, on est généralement chez ses parents. Mais non, en même temps, il y a pas mal d'enfants qui sont dans les rues, qui sont qui errent dans la rue pour chercher aussi à manger. C'est généralement lié, ce problème des enfants qui se retrouvent dans les rues, par rapport au fait qu'il y a des enfants qui étaient reste avec, je reviendrai sur le mot reste avec plus tard, et que quand ils commencent à grandir 14-15 ans, autour de 14-15 ans, ils se retrouvent dans la rue parce que les parents qui les accueillent pendant un certain temps ne veulent plus d'eux, donc ils sont éjectés dans la rue. Et ces enfants-là, ils errent pour trouver aussi de quoi manger, essuyer les vitres des voitures, faire des petits travaux par-ci, par-là, et puis aussi tomber dans la délinquance juvénile. Donc voilà, il n'y a pas tout le monde qui se retrouve, tous les enfants qui se retrouvent chez eux. Voilà.
Est-ce que tous les enfants ont accès à l'eau?
La réponse est clairement non. Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'eau potable en tant que telle. Ben, c'est inaccessible pour presque toute la population. La plupart du temps, les gens ils vont chercher de l'eau, notamment dans les villes de province, ça veut dire dans les lieux reculés. Ils vont chercher de l'eau dans les rivières ou dans les sources, et puis ils mettent du chlore dedans pour pouvoir purifier l'eau. Mais l'État, le gouvernement en tant que tel, il n'a pas les moyens pour pouvoir distribuer l'eau à toutes les familles, à toutes les personnes. Donc les enfants, non, ils n'ont pas cet accès-là à l'eau. Ils peuvent boire un verre d'eau et puis ça leur rend malade. Voilà.
Peuvent-ils tous boire de l'eau potable?
Non, ça c'est sûr que non. Il n'y a pas cette, nous n'avons malheureusement pas cette chance-là. Il faut purifier l'eau. Et là, c'est le chlore généralement qu'on utilise.
Est-ce que les enfants ont une nourriture suffisante? Pouvez-vous nous donner un exemple de repas durant une journée?
La réponse est aussi, c'est non. La plupart des enfants n'ont pas cette chance-là. Déjà, le fait de trouver à manger, c'est tout un combat, on va dire, parce que les parents, ils n'ont pas de travail, le taux de chômage est très élevé. Tout le monde se débrouille pour trouver à manger. Maintenant, quand on trouve à manger, on ne cherche pas à savoir quelle est la qualité de ce qu'on mange. On mange pour manger, on mange pour se remplir le ventre. On peut se retrouver, par exemple, le matin, ça va vous surprendre un peu, avec des plats de spaghettis, avec des bananes et puis avec du pain en plus, donc beaucoup de féculents pour à consommer. L'essentiel, c'est de se remplir. Après, beaucoup de sucre aussi, de Coca-Cola même, ou bien du citron, et puis on fait un jus de citron et puis on met beaucoup de sucre dedans et puis on se tient. Après, l'après-midi, on mange du riz, c'est plus ou moins équilibré, on mange du riz avec des légumes et puis de la purée de pois, ou bien de la polenta avec des légumes et puis de la purée de pois. Généralement, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils ont suffisamment à manger? Non, je ne pense pas. Et l'alimentation, elle est équilibrée généralement quand il y a les moments de récolte, parce qu'on tient beaucoup plus compte des légumes qu'on mange. Voilà. Mais ce n'est pas de grande qualité.
Est-ce que tous les enfants peuvent aller à l'école?
Voilà. Non. Absolument non. Je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps pour expliquer ça par rapport aux autres questions. C'est que l'école, sur les papiers, dans la Constitution, c'est dit que c'est gratuit. Donc, normalement, tous les enfants devaient aller à l'école. Mais dans la réalité, c'est tout autre. L'État ne met pas en place, ne construit pas des écoles, n'a pas les moyens pour construire des écoles. Donc, ce sont les personnes, les privés, qui viennent construire des écoles, qui engagent des enseignants. Et pour payer les enseignants, les élèves, eux, ils doivent payer la scolarité. Et puisque les parents, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas du travail pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir payer l'école, eh bien, leurs enfants, notamment encore dans les villes de province, ils restent chez eux, ils vont dans les champs, ils vont changer les cabris, les chèvres dans les champs, ils vont chercher de l'eau, ils vont dans la rivière. C'est généralement ce travail-là qu'on va retrouver chez les enfants. Dans ces écoles-là, ben, les professeurs ne sont pas forcément formés. On peut se retrouver, ça j'ai eu ça comme situation, on peut se retrouver avec un directeur qui ne sait pas non plus lire, hein, parce que, voilà, mais il a la volonté de construire une école et puis de aider son petit village. Donc, est-ce que tous les enfants ont accès à l'école? Oui, mais il faut avoir les moyens de se payer de bonnes écoles et de bons enseignants. Et ça, ce n'est pas encore totalement gagné pour tous les enfants, malheureusement.
Nous avons lu sur le site Tigoudelot qu'il y a parfois 200 élèves par classe. Est-ce qu'ils peuvent tous donner leur avis?
Alors, je prends pour toi une seconde en plus sur cette question. C'est peut-être une erreur de notre part de dire 200 élèves. C'est vraiment dans des endroits très reculés où il y a très peu d'écoles où on retrouve des situations comme ça. Mais dans la plupart des écoles, on peut se retrouver entre 100 et 120 élèves. Allez, 130 pour exagérer. Personnellement, en tant qu'enseignant en Haïti, je me suis retrouvé avec une classe de 70 élèves dedans. Et là, la stratégie, et ça je parle peut-être pour tous mes collègues qui étaient dans la même situation, la stratégie de l'enseignant, c'est de s'occuper des deux ou trois rangées de devant. Et puis le reste, on n'y arrive pas, il faut le reconnaître. On est affaibli par rapport à cette situation-là. Et on ne peut pas balayer tout le monde. Donc, ceci dit, on s'occupe de ces deux-là. Et toutes les personnes qui sont derrière, il faut qu'il y ait vraiment une force de résilience, ça veut dire une capacité pour vouloir sortir de là où ils sont et capter le maximum. Et ça, c'est pas dit. Est-ce qu'ils peuvent donner tous leur avis? Non, évidemment non, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà.
Et y a-t-il des conseils de classe?
Absolument pas. Ça, on n'en fait pas. On ne sait pas ce que c'est.
Quand un enfant est malade ou blessé, est-ce qu'il peut se faire soigner à l'hôpital?
Ça, c'est des questions encore très pertinentes. Oui, il peut se faire soigner à l'hôpital, mais nous sommes dans un système sanitaire décadent. Ça veut dire que l'hôpital, le médecin, il peut y avoir un bel hôpital avec des lits et tout, le médecin, il n'est pas là, donc il ne peut pas recevoir l'enfant. Les infirmières, elles sont en grève, les infirmiers et les infirmières sont en grève, donc ils ne peuvent pas recevoir des malades. Et de toutes les manières, le système fait qu'il n'y a pas de médicaments dans une pharmacie où on va donner aux patients. Donc il faut que les parents qui arrivent avec l'enfant achètent, ils aillent acheter les médicaments, ils payent le médecin et ils fournissent quoi, le matériel pour pouvoir soigner l'enfant. Dans le cas contraire, il n'y a pas de soin. Parce qu'on n'a pas les moyens pour assurer les soins de cet enfant-là malade.
Merci.
Pas de souci.
Est-ce qu'il existe des soins spécifiques pour les enfants qui ont un handicap?
La réponse est non. Il n'y en a pas. Alors, il faut juste savoir que qu'on soit en situation de handicap physique ou autre, on reste dans sa famille et c'est la famille qui prend soin de la personne. Pas, il n'y a pas un hôpital particulier où on va soigner l'enfant qui en a besoin. J'ajouterai une chose, c'est que il n'y a pas non plus de structure scolaire particulière. Je connais qu'une école qui reçoit des élèves sourds et malentendants. Ça s'appelle Saint-Vincent et je ne sais pas, j'aurais dû peut-être me renseigner, je ne sais pas si ça continue à fonctionner depuis le tremblement de terre. Donc, voilà. On a un handicap, d'accord, on reconnaît ce handicap-là. À la rigueur, on peut se retrouver avec des enfants en chaise roulante, et poussés par la famille, mais après, on reste confiné chez soi, comme tous les enfants. Malheureusement, même si on a ce problème, ce handicap-là, on fait pas de distinction, enfin, on fait pas. Il n'y a pas de soins particuliers pour eux.
Comment jouent les enfants en Haïti?
Alors, il y a deux possibilités. Soit ceux qui ont les moyens de s'acheter des jeux comme DS, Nintendo DS, etc. Parce qu'il y en a aussi qui ont les moyens. Il n'y a pas que des enfants, d'enfants de familles pauvres en Haïti. Et bien dans ce cas-là, et voilà, ils ont tous les jeux, hein, ça c'est sûr. Mais ceux qui n'en ont pas, et c'est la grande majorité, ben ils peuvent aussi se construire des jeux. Je me rappelle, bon ça je parle de moi, parce que j'ai grandi aussi dans une famille où il y avait très peu de moyens. On se faisait des jeux par rapport avec des pneus, on faisait la marelle, on jouait à la corde. C'est généralement tourné, ça me fait remonter des souvenirs, c'est généralement tourné vers la danse, vers le chant, parce qu'on a tout le temps besoin de ça. Donc jusqu'à présent, je pense que c'est la même chose. Il y a un jeu, je sais plus comment vous appelez ça ici, mais ça s'appelle Kai chez nous. Et c'est très associatif parce qu'il faut être stratégique dans le fait de bouger les pions, de bouger les choses pour pouvoir gagner. Donc on joue à ça et on prend du temps. C'est un peu notre moment de bonheur aussi, notre moment. Je parle comme si j'étais l'enfant, mais c'est les moments de bonheur des enfants. Voilà.
Connaissez-vous un jeu haïtien?
Oui, la marelle, caille. Ouais, donc, ouais. C'est cela qui reste dans ma tête parce que j'ai beaucoup adoré ça. Pardon.
Est-ce que les enfants vont voir des spectacles avec l'école? Est-ce qu'ils font des sorties?
Non. Non, il n'y en a pas. Alors, je parle beaucoup plus par rapport à maintenant. On ne peut pas faire sortir les enfants de l'espace scolaire. Et on vient de passer 4 mois. Et là, je parle vraiment avec beaucoup d'émotion. On vient de passer 4 mois, l'école était fermée à cause de l'insécurité. Donc, si on fait sortir les élèves, les parents ne sont pas d'accord. À juste titre, parce qu'on est dans une situation où déjà le fait d'organiser l'école, c'est bizarre, c'est compliqué. Faire sortir les élèves pour aller au musée, faire sortir les élèves pour aller à une sortie de plage, etc., faire qu'ils se détendent, ce n'est juste pas possible. Et ceci, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que c'est comme ça. Donc non, pour l'instant là, il n'y a pas de sortie. Et avant, il y en avait, bien sûr, on pouvait aller regarder ce qui se passait au musée d'ethnographie. On peut... le musée du Panthéon National. On pouvait aller visiter l'aéroport. Moi, j'y étais quand j'étais élève. Mais là, maintenant, c'est non. Absolument pas. Et ça, on peut comprendre parfaitement les parents par rapport à la situation d'insécurité du pays. Voilà.
Quand un enfant naît, est-ce qu'on lui fait un acte de naissance et une carte d'identité?
Oui. D'ailleurs, avant même que l'enfant sorte de chez lui, il doit non seulement avoir un acte de naissance, mais il doit aussi avoir ce qu'on appelle, il doit être baptisé. Il doit sortir uniquement dans le cas où il doit aller faire ses vaccins. Aussi longtemps, je mets l'accent énormément sur ce point-là, aussi longtemps qu'il n'est pas baptisé et qu'il n'a pas l'acte de baptême, il ne peut pas sortir. C'est toute une affaire de les esprits qui sont là, ils vont faire du mal à l'enfant parce qu'il n'a pas été donné au bon Dieu. C'est toute une histoire biblique, entre guillemets. Mais l'acte de naissance, oui, l'enfant s'appelle Jacques, et puis on l'identifie, mais automatiquement, il doit aussi être baptisé. Mais la carte d'identité, c'est quand il a 18 ans, parce qu'il est reconnu comme enfant sous la responsabilité de ses parents. Il ne peut pas voter, il ne peut rien faire d'autre. Et il sera reconnu comme citoyen du pays, donc il aura la carte d'identité du pays à partir de 18 ans, pas avant.
Peut-il voyager?
Si, il peut. Il peut avoir un passeport qui est donné par rapport à l'acte de naissance et l'acte de baptême. C'est tellement important ça. Mais la carte d'identité en tant que telle peut aussi lui donner accès, mais c'est à partir de 18 ans, pas avant.
Est-ce que les enfants d'Haïti vivent avec leur famille?
Oui, ils vivent tous avec leur famille jusqu'à ce qu'ils soient mariés. Hein. Ce n'est pas forcément jusqu'à 18 ans, parce qu'à 18 ans, on peut encore être dépendant complètement de ses parents. Et jusqu'au mariage, qui peut aller aussi jusqu'à 30 ans, 40 ans, sans aucun problème, on reste chez soi, on reste dans sa famille. Ici, on peut se retrouver... on est en famille, on est enfant, etc. à partir de 17-18 ans, quand on a un travail, on va dans son appartement. Mais en Haïti, il faut d'abord trouver le travail, il faut d'abord trouver la personne avec qui on a envie de partager sa vie et se marier, ensuite aller vivre. Mais aussi longtemps qu'on n'est pas dans ce cas-là, mais on est chez ses parents, notamment parce qu'on est enfant. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Est-ce que les enfants sont protégés de la maltraitance?
C'est compliqué. Je dirais deux choses. Dans les papiers, oui, sur les papiers, dans la loi, on n'a pas le droit de toucher les enfants, mais mon Dieu, ce n'est que sur les papiers. Vraiment. Deux choses. La première, c'est que quand on éduque les enfants, le concept de punition corporelle existe toujours. Et ça, c'est dommage. Vraiment, j'insiste là-dessus. La deuxième chose, quand je reviens à la question que disait tout à l'heure, là, les enfants restent avec, il faut juste savoir que ce sont des enfants esclaves. Je ne sais pas si je peux prendre un petit moment pour pouvoir parler de cette situation-là. En fait, ce sont des enfants qui sortent des villes de province, qui viennent dans les villes, la capitale, et parce que les parents ne peuvent pas leur donner de quoi manger, de quoi boire, etc. Donc, ils leur confient à des familles ou à des proches dans les villes de province. Et ces enfants-là, on leur fait croire qu'on va les mettre à l'école, qu'on va leur donner de quoi manger, les habiller, etc. Mais en réalité, ce sont des esclaves. Donc, on est dans la totale maltraitance. Et cette maltraitance-là, le pire, c'est que, par exemple, un enfant, vous avez quel âge? Vous avez autour de 10 ans. Ils font tout dans la maison. Le ménage, le repas, aller faire les courses, la totale. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à dire. On parlait d'avis tout à l'heure. Ils n'ont rien à dire. Si jamais ils réagissent, eh ben, c'est le fouet qui tombe. Et ce sont des enfants généralement marqués. Ce sont ces enfants-là qu'on va retrouver encore dans la rue quand ils auront 14, 15 ans, révoltés, blessés au fond d'eux-mêmes, et qui vont par la suite créer des situations aussi d'insécurité parce qu'on leur a donné, comment dire ça, on a agi violemment par rapport à eux, ils connaissent que ça. Et cette maltraitance-là, elle débouche encore sur cette violence-là qui crée l'insécurité, qui fait qu'on ne peut pas avoir des sorties scolaires, on ne peut pas avoir l'école qui fonctionne bien. Enfin, là, toute une situation qui bloque le pays. Et ça, voilà un point de départ. On parle de la maltraitance des enfants qui bloque tout simplement l'évolution aussi de la société.
Y a-t-il des enfants qui travaillent?
Absolument, oui. Malheureusement, oui. Malheureusement. Qui travaillent pour gagner leur vie, mais pas forcément. On parle aussi de prostitution juvénile. Je suis désolé d'en parler, mais c'est une réalité.
Y a-t-il de la discrimination chez les enfants d'Haïti en raison de leur langue, religion, fortune ou autre?
C'est compliqué cette question-là. Je dirais oui. En fait, il y a deux niveaux en Haïti. Un niveau de famille, on va dire 5%, 10% des familles très riches. Et il y a 90% des familles très pauvres. Dans une école, on peut se retrouver avec que des enfants riches. Et dans ce cas-là, ceux qui sont dans les bidonvilles, dans les ghettos, s'ils se retrouvent, je parle des enfants, s'ils se retrouvent dans ces écoles-là, parce que, par exemple, moi qui suis ici, je paye l'école pour ma nièce qui est en Haïti et qui se retrouve dans cette école-là, on peut se dire, mais comment t'as fait pour être là? Par où tu es passé pour être là? Donc, en fait, le fait qu'elle soit dans ce quartier-là, elle ne peut pas avoir accès à ces genres d'école-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est déjà pour moi une grosse discrimination. Une deuxième discrimination, c'est par rapport à la langue. On parle français là, mais moi, je parle créole. Quand on arrive et puis on parle le vrai créole de la ville, quoi, les gens qui sont dans ces milieux-là, dans ce cadre de riche-là, ben, pour eux, on ne parle pas, on ne sait pas parler parce qu'on ne parle pas français. Donc, il y a aussi cette forme de discrimination-là par rapport à la langue. Troisième discrimination, c'est par rapport aux vaudous et aux protestants ou catholiques, christianistes. Donc, les vaudouisants, ce sont ceux qui croient dans ci, dans ça, etc. On n'accepte pas forcément leur religion, leur perception de la vie. Et quand ils se retrouvent dans les mêmes milieux que les personnes qui, protestants, catholiques, etc., ben ils disent, qu'est-ce que vous faites là? On ne peut pas se mélanger. Donc, il y a effectivement cette forme de discrimination. Fortune, oui. Je me rappelle, et ça c'est une petite anecdote, quand j'étais à l'école, j'étais tombé amoureux d'une fille qui avait les moyens. un groupe d'amis à elle m'a appelé pour me dire, mais t'es complètement dingue, quoi. Y a un problème chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu veux qu'on te bastonne un peu pour te remettre les pendules à l'heure? On était dans ça. Donc moi qui étais pauvre, je ne pouvais pas être avec cette fille qui était riche et qui venait en Mercedes à l'école. Voilà.
Comment sont gérés les déchets en Haïti?
Ils ne sont pas gérés. Ils ne sont pas gérés du tout, du tout, du tout. Quand c'est complètement rempli une rue ou les rues généralement, notamment après les manifestations, mais les tracteurs ils passent avec les camions, ils ramassent tout et puis ils vont verser ça au bord de la mer, en bas de la ville, notamment là où il y a les bidonvilles, très peuplés, 500 000 habitants, 600 000 habitants. Et là, on met le feu, en même temps, peut-être volontairement ou involontairement, on intoxique tout le monde, tous les gens qui habitent dans cette zone-là. Mais est-ce qu'il y a un tri entre, mettons les paies ici, mettons les déchets, légumes et autres ici, mettons les bouteilles ici? Non. Moi, c'est ça ici que j'ai vu ça. On n'a jamais... Déjà, on n'a pas d'espace, comme on appelle ça, d'usine pour pouvoir traiter ces déchets-là. On ne les a pas. Donc, on ne peut même pas choisir de les séparer. Tout est mélangé.
Est-ce qu'il y a assez de verdure pour que tous les enfants puissent vivre dans un milieu sain?
Non. L'espace territorial haïtien, c'est 27 250 km². L'espace qui est occupé, c'est 2%. Même pas. Tout ce qui existait, c'est parti pour faire des charbons de bois, pour que la consommation, pour que les gens ils puissent se faire à manger. Et aussi, c'est un commerce qui fait vivre pas mal de familles. Donc, l'espace qui reste, les parcs, etc., avec toutes les verdures que nous avons là, on ne retrouve pas ça ici. Non, il n'y a pas, malheureusement.
Et voilà, notre interview se termine. Un grand merci à Monsieur Geffrard d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site internet Tigoudlo pour Haïti, Genève. Et si vous voulez faire un don, n'hésitez pas!
Nous remercions Monsieur Geffrard pour ses réponses. Pour terminer notre émission, nous vous invitons à écouter un extrait de discours de Monsieur Sommer, le directeur de notre école, date du 20 février, date à laquelle nous avons planté un arbre dans le parc de Tremblay pour marquer les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant.
Je suis très heureux que nous puissions être accueillis par le soleil ce matin pour planter un séquoia en souvenir d'une signature très importante qui a eu lieu il y a 30 ans. Il y a 30 ans, le 20 novembre, il y a eu la signature de la Convention des droits de l'enfant. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, le 20 février, bon, on a 3 mois de décalage, hein, mais on est quand même le 20. Le 20 février 2020, nous plantons un arbre, un séquoia, et nous sommes très heureux, l'établissement de Tremblay, qui a eu cette idée avec, je dois le citer, à l'origine de l'idée, M. Philippe Combes, de planter un arbre pour célébrer cet anniversaire. Et nous le faisons, et c'est aussi un grand bonheur, dans une belle collaboration avec le service des espaces verts. Nous sommes très heureux de nous souvenir qu'un jour, quelques-uns ont décidé de prendre soin tout particulièrement des enfants en signant une charte, une convention, un texte qui nous dit de quelle manière protéger un enfant. Il y a quelqu'un bien avant cette charte qui a été signée il y a 30 ans qui s'appelle Janusz Korczak. Il est polonais. Alors je ne sais pas s'il y en a qui parlent le polonais ici. On a des élèves qui parlent le polonais. Yo rozumu po polsku. Je parle et je comprends le polonais. Cet homme, Janusz Korczak, était médecin, pédiatre, psychologue et il a ouvert des orphelinats pour prendre soin tout particulièrement des enfants. Et au pied de cet arbre, il y aura sa citation qui date, elle, de 1919. Ça fait combien d'années ? 100 ans. Alors, à la fois, nous fêtons les 30 ans de la signature des droits de l'enfant, mais nous nous souvenons de cet écrivain qui a dit quelque chose qui était peut-être les tout débuts de la Convention des droits de l'enfant. Il a écrit cela dans son texte. L'enfant a le droit au respect de sa dignité, de son amour propre. Il ne faut pas le piétiner, ne pas l'humilier. Il faut le laisser vivre sans le décourager. Il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas le presser. Il a besoin de respect pour chaque minute qui passe. C'est un beau texte, n'est-ce pas ? Et alors que nous allons planter un arbre, récemment je lisais un livre qui nous disait que pour les arbres c'était la même chose. Il ne faut pas trop les piétiner, il ne faut pas trop les presser. Les arbres ont un espace de vie beaucoup plus grand que le nôtre. 30 ans, c'est un gamin lui à 30 ans. Alors que nous, je parle de l'arbre, hein. Alors que nous, lorsque nous avons 30 ans, on est déjà adulte. Et dans le livre que j'ai lu, il nous parle de la communication entre les arbres. Alors c'est vrai, lorsqu'on parle des droits de l'enfant, on parle du vivre ensemble. Comment on s'organise pour bien se supporter les uns avec les autres ? Eh bien, c'est aussi valable pour les arbres. Et les arbres nous apprennent quelque chose de très important. Ils communiquent aussi. Et le service des espaces verts a choisi de planter cet arbre, un séquoia, à côté de cet arbre-là, qu'on appelle une souche. Il a été abattu. Et ils vont pouvoir communiquer. Cette souche, ce vieil arbre, va encore communiquer par ses racines à celui-ci qui grandira et qui viendra. Peut-être qu'on le verra, peut-être que vous le verrez, peut-être que je ne le verrai pas, un jour aussi grand que celui-ci. Vous voyez là, c'est aussi un séquoia. Alors, on va chanter en l'honneur des droits de l'enfant. Je remercie les classes du cycle élémentaire qui sont là. Et après quoi, on passera à l'appel pour que cet arbre soit planté ici, grâce aux enfants de Tremblay.
Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pendant cette émission spéciale sur les droits de l'enfant. Nous vous souhaitons une belle fin de journée et à bientôt sur Radio Tremblay.
Radio Tremblay.